VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du jeudi 17 mars 2019, en direct de Washington, 7 mars 2019, en direct de Washington, Idrissa Seloudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila ont décidé hier de mettre en place une coalition gouvernementale.
Au Congo-Brazzaville, c'est 20 ans de travaux forcés pour l'opposant André Okombi Salissa.
En Côte d'Ivoire, le PDCI menace de ne pas participer à l'élection aujourd'hui du nouveau président de l'Assemblée nationale.
Ici à Washington, le président Donald Trump a averti qu'il serait très, très déçu si Pyongyang reconstruisait un site de fusée.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila optent pour un gouvernement de coalition en vue de gouverner ensemble à travers leurs regroupements politiques respectifs. Messieurs Tshisekedi et Kabila, hier ennemis politiques, ont décidé de cheminer ensemble à travers un gouvernement qui devrait être formé dans les prochains jours. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les échanges engagés ces deux derniers jours entre le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et CAP pour le changement de Félix Tshisekedi ont permis à ces deux regroupements politiques de constater que le Front commun pour le Congo, de manière documentée, détient la majorité absolue à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 78 alinéa 1 de la Constitution de la RDC. Cet article consacre le fait que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Dans un communiqué conjoint signé par Némi Moulania, coordonnateur du FCC, et Jean-Marc Kabunda Kabunda, président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi, représentant CAP pour le changement, il est recommandé au président honoraire Joseph Kabila de proposer un formateur du gouvernement à la nomination du nouveau chef de l'État et à ce dernier, il est recommandé de nommer diligemment ce formateur du gouvernement. Félix Tshisekedi avait pourtant déclaré récemment qu'il devait avant tout nommer un informateur pour constater cette majorité parlementaire. Enfin, le FCC et CASH annoncent la constitution d'une coalition afin de gouverner ensemble, ce qui devrait accélérer la nomination d'un premier ministre un mois et demi après l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
De l'autre côté du fleuve, c'est 20 ans de travaux forcés pour l'opposant congolais André Okombi Salissa. Il a été condamné hier par la cour criminelle de Brazzaville pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Des détails avec Irénée Herman Ungbo.
André Okombi Salissa et trois autres complices étaient jugés pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre. L'opposant dispose de 3 jours pour se pourvoir en cassation, a indiqué Christian Oba, président de la Cour, ordonnant la restitution des armes. Il condamne aussi les accusés à payer à l'État congolais un franc symbolique au titre de dommages et intérêts. Le procureur général avait requis 20 ans de travaux forcés contre l'opposant alors que ses avocats avaient quitté la salle pour protester contre la conduite du procès par le tribunal criminel de Brazzaville, accusé de violer les droits de la défense. Personne n'est dupe, j'ai assez parlé pour prouver mon innocence. Je n'ai pas de défense, je me soumets à votre conviction, a déclaré Okombi Salissa. Membre influent du PCT, le Parti congolais du travail au pouvoir, et ministre dans tous les gouvernements de 1997 à 2012, André Okombi Salissa, 56 ans, a basculé dans l'opposition à l'approche de la présidentielle de 2016, remportée par son ancien mentor Denis Sassou Nguesso.
En Côte d'Ivoire, le PDCI, principale formation d'opposition, dénonce ce qu'il a appelé une modification unilatérale du mode de scrutin. Ce parti menace de ne pas participer à l'élection aujourd'hui du nouveau président de l'Assemblée nationale en remplacement de Guillaume Soro, qui a démissionné le 8 février dernier. Le point avec Jacques Aristide.
3 groupes parlementaires, à savoir le PDCI, le Vox Populi et le Rassemblement, un parti proche de Guillaume Soro, déplore le fait que le président par intérim du Parlement et doyen d'âge, Mamadou Diawara, qui est proche du pouvoir, a décidé unilatéralement, disent-ils, de l'utilisation de bulletins multiples au motif qu'il serait normal pour un député de ramener à son groupe parlementaire le bulletin qu'il n'a pas utilisé pour faire preuve de son vote. L'élection l'élection du nouveau président du Parlement devrait opposer deux candidats, Amadou Soumaoro, au cadre du parti présidentiel et ex-ministre des Affaires présidentielles, et Jérémy Alfred Nguan du PDCI, d'après des médias locaux. Le Parlement compte 255 députés élus, dont plus de 110 sont issus du parti présidentiel RDR. Guillaume Soro a été poussé à la démission par le président Alassane Ouattara après avoir refusé de participer à la transformation en un grand parti unifié de la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ou RHDP.
Au Nigeria, un tribunal a autorisé hier le principal leader de l'opposition, Atiku Abubakar, à inspecter le matériel électoral dans le cadre de sa tentative pour contester sa défaite à la récente présidentielle. Monsieur Abubakar, qui a rejeté les résultats officiels en se plaignant d'irrégularités, s'était adressé au tribunal électoral à la suite de sa défaite à l'élection du 23 février, qui a vu la victoire du président sortant, Muhammadu Buhari.
En Algérie, les autorités ont assuré hier que les conditions sont réunies pour organiser la présidentielle le 18 avril, et ce, malgré la contestation sans précédent suscitée par la candidature à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, dont le camp commence néanmoins à se fissurer. Aucune manifestation n'était prévue hier, mais un important dispositif policier restait déployé à Alger, alors que la journée de mobilisation s'annonce forte vendredi, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, deux hauts responsables du ministère américain de la Sécurité intérieure ont défendu hier la politique de l'administration Trump à la frontière avec le Mexique, 24 heures après la publication de nouvelles statistiques officielles sur la hausse du nombre de personnes entrées illégalement aux États-Unis. Déposant au Congrès, la ministre Kristen Nielsen a eu à répondre à des questions sur le traitement des clandestins et demandeurs d'asile en détention et aussi sur la déclaration par le président Donald Trump d'une urgence nationale en rapport avec la situation sur le terrain. Pour Mme Nielsen, il s'agit assurément d'une crise, d'une urgence réelle.
Michael Cohen, l'ancien avocat personnel et homme de confiance du président Donald Trump, a déposé hier pour la quatrième fois devant une commission parlementaire à Washington. Une des questions clés porte sur les 280 000 dollars qu'il avait payés peu avant la présidentielle de 2016 pour acheter le silence de deux femmes, dont une actrice de films pornographiques, qui disait avoir eu des rapports intimes il y a plus de 10 ans avec le candidat Trump. Les parlementaires voulaient aussi revenir sur le rôle joué par M. Cohen dans le projet controversé de construction d'une tour Trump à Moscou. M. Cohen, qui a reconnu à ce sujet avoir menti au Congrès, aurait en effet continué à négocier ce projet pendant la campagne présidentielle, contrairement à ce qu'a longtemps affirmé M. Trump.
Le président Trump, qui hier a prévenu qu'il serait, je cite, très très déçu si se confirmait que la Corée du Nord était en train de reconstruire un site de lancement de fusées. Mais a également dit M. Trump, il est trop tôt pour savoir si ces informations étaient vraies. Il y a seulement quelques jours, le président américain s'était vanté de relations solides avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, avec lequel il vient d'avoir fin février à Hanoï, au Vietnam, un deuxième sommet.
Des centaines de femmes, d'enfants et d'hommes, dont des blessés, ont quitté mercredi l'ultime réduit du groupe État islamique en Syrie, où des forces soutenues par les États-Unis attendent de pouvoir reprendre leur assaut contre les derniers djihadistes acculés. Une nouvelle fois, les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes, les FDS, ont dû ralentir dimanche dernier leurs opérations sur le terrain après être repartis à l'offensive contre l'ultime poche du groupe dans le village de Baghouz. Parmi les personnes évacuées figuraient également plusieurs enfants, dont 7 yazidis, une minorité confessionnelle particulièrement touchée par les exactions de l'organisation djihadiste.
Le déficit commercial des États-Unis s'est hissé l'année dernière à un niveau inédit en 10 ans, malgré les politiques dites protectionnistes du président Donald Trump. En effet, ces politiques n'ont pas pu empêcher l'afflux record des importations en provenance de Chine, du Mexique et de l'Union européenne, en dépit des taxes douanières punitives imposées aux bienvenus de l'étranger. Le déficit des biens et services s'est établi à 621 milliards de dollars.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco
Nanit Talani.
Au Bénin, le kilogramme de noix de cajou a été fixé à 400 francs durant la campagne 2018-2019 qui s'ouvre aujourd'hui. Ecofine rapporte que ce tarif, qui marque une baisse de 250 francs CFA par rapport au barème de la saison précédente, s'explique par une situation mondiale marquée par des problèmes d'écoulement de la matière première. Le Bénin, quatrième fournisseur africain, a produit environ 140 000 tonnes de noix de cajou brutes en 2018 et compte avoir 171 000 tonnes en 2019. La pêche et la culture du poivron ainsi que leur commercialisation sont de nouveau autorisées dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger, où elles étaient interdites depuis 4 ans car jugées susceptibles de financer les activités de Boko Haram. Ces nouvelles mesures sont censées aider la population à s'épanouir financièrement et à se passer de l'aide humanitaire. Avant la crise provoquée par Boko Haram, la pêche et le poivron généraient jusqu'à 28 milliards de francs CFA provenant en grande majorité des exportations vers le Nigeria. Pour terminer, l'opposition libérienne a appelé hier l'administration de George Weah à arrêter le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. Ils font partie des personnes à qui il est reproché d'avoir fait imprimer sans autorisation un excédent de billets de 14,4 millions d'euros dont ils ne peuvent justifier l'utilisation. 5 anciens dirigeants de la banque, dont Charles Sirleaf, un fils de l'ex-présidente Hélène Johnson Sirleaf, ont été inculpés à la suite de cet audit du cabinet du conseil américain Kroll Associates.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le PSG éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions.
Oui, vainqueur 2-0 à l'aller, le PSG a été battu 3-1 par Manchester United hier au Parc des Princes. Le match a basculé en toute fin de rencontre sur un pénalty accordé après visionnage de la vidéo pour une main de Presnel Kimpembe. Le club parisien succombe à une nouvelle remontada. On se rappelle, le 8 mars 2017, Paris avait été éjecté en huitième de finale de la Ligue des Champions, écrasé 6-1 à Barcelone au retour, alors que le Barça s'était incliné 4-0 à l'aller.
Fortune diverse pour les représentants africains au tournoi international féminin de Chypre.
Oui, le Nigeria quitte sur une victoire et l'Afrique du Sud sur une défaite. La campagne n'a pas été fructueuse pour les Bayana Bayana. En 3 matchs de groupe, les filles de Désiré Ellis n'ont gagné aucun avec un nul 2-2 contre la Finlande, 2 défaites 1-4 contre la Corée du Sud et 1-2 contre la République tchèque. En match de classement, nouvelle défaite 0-3 contre la Finlande. Le Nigeria a eu plus de sourire avec 2 défaites 1-4 devant l'Autriche, 0-1 face à la Belgique, une victoire 4-3 face à la Slovaquie. Pour leur première participation à la compétition, les Super Falcons arrachent la 7e place sur 12 après le succès 3-0 hier sur la Thaïlande. Ce tournoi international féminin de Chypre a servi de préparation pour la Coupe du Monde France 2019.
La Supercoupe de la Tunisie aura lieu le 2 avril.
Oui, prévu le mois dernier, mais annulé en raison de problèmes d'organisation. La Supercoupe tunisienne aura finalement lieu le 2 avril prochain, toujours au Qatar, au stade d'El Garafa. La rencontre opposera l'Espérance Tunis championne en titre au CA Bizertin, demi-finaliste de la Coupe. Initialement, le club africain, vainqueur de la Coupe nationale, devait affronter l'Espérance sportive de Tunis, mais le club africain a refusé pour exprimer son mécontentement quant à l'identité des arbitres sélectionnés. L'étoile du Sahel, finaliste de la Coupe, a aussi refusé de le remplacer en invoquant un calendrier trop chargé.
Encore une plainte pour mauvais arbitrage en Coupe CAF.
Et oui, cette dernière vient du Kenya où la Fédération de football a adressé un courrier à l'instance continentale pour demander une enquête sur l'arbitre du match Gor Mahia Hussein Dey dimanche dernier. Le Malien Boubou Traoré a refusé un pénalty au Kenya à la 58e minute pour une faute qu'ils estiment inexistante à la suite d'un corner. Mardi, suite à la plainte du Raja Casablanca, l'arbitre du match Raja RS Berkane, le Camerounais Antoine Max Depadou Efa Essouma a été suspendu pour 1 an par la commission des arbitres de la CAF. Basketball. Pour finir avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Miami et Charlotte, 91 à 84. Détroit et Minnesota, 131 à 114. Washington et Dallas, 132 à 123. San Antonio et Atlanta, 111 à 104. Brooklyn et Cleveland, 113 à 107. Chicago et Philadelphie, 108 à 107. Utah et la Nouvelle-Orléans, 114 à 104. Phoenix et New York, 107 à 96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En prélude à la journée de la femme, célébrée ce 8 mars, nous vous proposons une série de reportages portraits. Ce matin, le Sénégal et le Tchad. Pour commencer, le Sénégal et les femmes dites « gagnent peu », qui s'en sortent difficilement, mais qui parviennent à nourrir leur famille grâce à leurs activités. Avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué, nous allons à la rencontre de Nella Pouy, une vendeuse de légumes qui fait vivre son mari et ses enfants grâce à son petit commerce.
Terrain noir, silhouette imposante, Nella Pouy est une vendeuse de légumes. Elle exerce cette activité depuis 6 ans. Avec un mari à la retraite et 5 enfants à nourrir, cette dame a fait des sacrifices au profit de sa famille.
Je me suis installée en ville depuis plus de 6 ans. Je vends une variété de légumes. Mes débuts ont été difficiles car la municipalité nous interdisait de vendre des légumes à côté du trottoir. Aujourd'hui, les choses se sont calmées. Je rends grâce à Dieu.
Du haut de ses 40 ans, Ndela s'approvisionne au marché Castor de Dakar. Elle nous confie que par moment, il est très compliqué pour elle de tirer son épingle du jeu.
Le kilo de chou, je l'achète à 300, je le revends à 500 francs. Le kilo de carottes, je l'achète à 1000 francs et je le revends à 1200. Idem pour le citron. Pour chaque article, je cherche un bénéfice de 200 francs. Les grandes surfaces nous rendent la vie difficile car ils ont investi notre domaine d'activité. Les gens préfèrent plus s'approvisionner là-bas.
Partie de rien, Ndela assure plusieurs charges parmi lesquelles la dépense quotidienne de sa maison.
J'ai toujours refusé de tendre la main. Voilà pourquoi je me bats bec et ongle pour subvenir aux besoins de ma famille et épauler mon époux.
Son credo, vivre au jour le jour, vivre le moment présent. Raison pour laquelle elle ne tient pas de comptabilité quotidienne.
C'est très compliqué de faire une comptabilité régulière. J'investis tous les jours 10 000 francs et il m'arrive de finir ma journée avec 6 000 francs. C'est un petit commerce, mais je rêve d'agrandir mon capital et bien sûr mes activités.
Chez Ndela, la vente de légumes est une histoire de famille et c'est avec fierté qu'elle nous la raconte.
Ma mère était vendeuse de légumes, mes frères aussi. Ils n'avaient pas de complexe à le faire. Aujourd'hui, tous les biens qu'ils ont, c'est grâce à la vente de légumes et c'est une fierté.
Voilà. Toutes les femmes sont des reines, mais cela ne devrait pas empêcher aux dames de travailler afin de gagner leur vie dignement. C'est cela la conviction de Ndela Pouy. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Au Tchad, la situation n'est pas tellement différente. Nombre de femmes se battent aussi quotidiennement pour leur propre survie et celle de leur famille, souvent dans des conditions plus difficiles que celles rencontrées par les hommes. Notre correspondant N'Djamena André Kotmadjingar a rencontré quelques-unes de ces femmes braves.
Les femmes brisent de plus en plus les pesanteurs socio-culturelles en exerçant avec conviction certaines professions longtemps réservées aux hommes. C'est le cas de Madame Mamti Nicole, chef de service de la morgue de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Elle est l'unique femme tchadienne à travailler dans ce secteur depuis 7 ans. Mariée puis divorcée à cause de son travail, elle dit avoir exercé cette profession avec passion.
Même à 1h, 2h, les gens amènent les corps. Dès qu'ils toquent à la porte, je me lève, je prends le corps, je décharge, je libère les parents. À seul, je lave, je les transporte. À seul, je l'habille. À seul, je le remets dans sa chambre. Même la mise à bière, je fais assez. Beaucoup de gens ne mangent pas avec moi, ça disant que mon métier est sale. D'autres ne me salent pas aussi, mais à main. J'écoute les femmes qui me critiquent, mais je les remercie. Pour moi, ils font ma publicité.
Dans le milieu judiciaire, une autre femme fait parler d'elle. Il s'agit de Tchamba Amboussidi. Après ses études en droit, elle a décidé de faire carrière dans la profession d'huissier de justice. Après un stage dans un bureau d'études d'huissier titulaire de charge en 2013, en mars 2018, elle est nommée huissier titulaire. Pour elle, il faut avoir le sens de la responsabilité afin de minimiser les risques.
Il y a toujours des difficultés parce que quand on amorce par exemple une exécution, il peut y avoir des interventions de la part de nos autorités. Et actuellement, je suis en face d'une de ces difficultés. On me demande toujours des comptes à rendre et je me suis dit non. Tel que c'est parti déjà, je ne dois pas me taire. Donc moi, j'encourage vraiment les femmes à se battre. Qu'elles disent oui, nous sommes capables d'affronter les difficultés, de nous battre pour notre survie.
Femme battante, il y a aussi une autre à la télévision nationale, Madame Kalna Hamboussidi. Elle la seule femme qui exerce depuis 5 ans environ comme cadreuse dans ce média public. Elle reconnaît que le métier est pénible, mais pas impossible pour les femmes.
Le fait de se tenir debout pendant des heures, puis être en reportage tout le temps, des fois je rentre tard la nuit, et c'est pas vraiment bon pour une femme. Certains métiers, c'est pas seulement fait pour les hommes. Il suffit de s'y mettre et on s'adapte et puis ça va aller.
Parmi les femmes tchadiennes qui se battent, il y a celles qui pratiquent les activités génératrices de revenus avec zéro capital. Madame Eve Hassan, mariée, mère de 4 enfants, prend le poisson à crédit avec le pêcheur pour le revendre.
Je promène avec le poisson au bar. Il y avait un gars à acheter le poisson avec moi. Il a fui avec mon argent tout. Parfois, les gens même t'insultent. C'est avec ces poissons-là que j'ai nourri mes enfants avec. Parfois, tu peux trouver même 2000, voire 3000 même. C'est le bénéfice là que nous, les femmes-là, on met le pari. On paye le loyer avec. Et quoi même, j'y paye avec l'argent du poisson.
André Kodmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Raïssa Girondin avec vous dans ce Washington Forum, coup de projecteur sur le harcèlement sexuel en Afrique. À l'occasion du FESPACO à Ouagadougou, deux actrices ont révélé avoir été la cible de harcèlement et d'agression sexuelle. Elles ont lancé le mouvement Même Pas Peur, un MeToo africain tardif mais salutaire. Y a-t-il un tabou autour du harcèlement sexuel en Afrique? Comment libérer la parole des femmes sur cette question? Du monde, de l'enseignement, à l'entreprise ou même l'église, quelles solutions pour lutter contre ce fléau? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Niger, une maladie bactérienne contagieuse tue les ânes depuis plus de 6 mois dans presque tout le pays. Il s'agit de la gourme équine ou angine du cheval qui a déjà tué près de 4000 bêtes. Les autorités travaillent ou s'évertuent à trouver une réponse sanitaire à ce fléau. Pour davantage de détails, notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est au mois d'août 2018 que les premiers cas ont été enregistrés à Zinder, à l'est du pays. Le temps de faire les prélèvements et analyser pour confirmation la maladie qui était jusqu'ici méconnue des éleveurs nigériens s'est répandue dans presque toutes les autres régions du pays. Bourema Dodo, secrétaire exécutif de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger.
Nous, en tant qu'association d'éleveurs, nous avons recensé jusqu'à 4000 et quelques têtes d'asine qui sont mortes. Et puis ça continue quoi. C'est très grave, c'est extrêmement grave. Hein. C'est presque un ravage de cette race asine hein, dans certaines régions. C'est vraiment une hécatombe.
La gourme équine ou angine du cheval est une maladie bactérienne très contagieuse, explique le directeur de la santé animale au ministère de l'élevage, Dr Mali.
Le labo a diagnostiqué que c'est la gourme qui est transmise par une bactérie. Donc c'est une maladie bactérienne très contagieuse qui diffuse très rapidement. Et c'est ça qui a expliqué le fait que ça a commencé à Zinder et en moins de 1 mois, tout le pays est contaminé. C'est une maladie des équidés. Ce n'est pas une zoonose. Donc un homme ne peut pas contracter la gourme. Donc vraiment, il faut que les gens soient tranquilles.
Depuis la confirmation de cette maladie, les autorités en charge des ressources animales ont pris les dispositions pour non seulement endiguer la maladie, mais aussi indemniser les éleveurs victimes. Mohamed Boucha, ministre de l'élevage.
On a pris des ressources au niveau du ministère pour essayer de rapidement de faire des commandes groupées, pour essayer de mettre à la disposition dans toutes les régions les antibiotiques pour essayer vraiment d'éradiquer cette maladie-là. Ces produits sont gratuits au profit des éleveurs. Donc faire des caravanes de vaccination, les choses commencent à se stabiliser. Nous prenons au sérieux cette situation des éleveurs parce qu'une fois qu'il n'y a pas des ânes, vraiment il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas à briver, ils ne peuvent pas transhumer. Il y a des listes qui sont chaque fois actualisées pour avoir une situation, pour essayer vraiment de répondre. On sait que X a perdu tant d'animaux. Quand on va répondre, on verra en fonction de la perte quelle réponse il faut donner et en fonction aussi de ce que nous aurons.
Environ 2 millions de têtes d'ânes sont répertoriées au Niger par les services du ministère de l'élevage récemment face à un flux massif des exportations d'ânes vers le Nigeria voisin et la Chine notamment. Le gouvernement nigérien a formellement interdit l'abattage et l'exportation des ânes. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants s'apprête à voter sur une résolution condamnant l'antisémitisme. La décision prise par les démocrates qui contrôlent la Chambre fait suite aux nouveaux propos polémiques de la députée Ilhan Omar, elle-même démocrate. Elle a dénoncé la semaine dernière ce qu'elle a appelé l'allégeance en pays étranger de certains lobbyistes et responsables politiques dans une allusion à Israël. Si elle s'était excusée sur un tweet jugé antisémite le 11 février, Ilhan Omar s'est défendue cette fois et n'a toujours pas retiré ses propos. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint ici à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Herman Cohen.
Pour la première fois, il y a des jeunes musulmans qui sont entrés au Congrès et ils ont commencé à critiquer Israël et les Américains qui soutiennent Israël. Mais ils sont allés trop loin parce qu'ils ont accusé les Américains qui soutiennent Israël d'avoir double loyauté, c'est-à-dire vous soutenez Israël, donc vous n'êtes pas Américain. Vous ne pouvez pas être Américain et pro-Israël en même temps. Il y a des gens qui disent que c'est l'antisémitisme, ça.
Oui, la représentante Ilhan Omar a parlé d'allégeance à Israël.
C'est ça. Mais ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, il y a des juifs américains qui soutiennent Israël, bien sûr. Mais le plus grand appui pour Israël vient des chrétiens évangéliques aux États-Unis. Les gens dans le sud des États-Unis, les évangélistes. C'est le plus féroce soutien pour Israël, beaucoup plus que les Juifs.
Quelle est un peu la position des démocrates? J'imagine que c'est une position un peu difficile parce qu'on les accuse en même temps de ne pas favoriser la liberté d'expression, mais Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, veut montrer que l'antisémitisme n'est pas acceptable. C'est une situation un peu difficile, n'est-ce pas, pour les démocrates?
Oh oui, la dame est nouvelle, apprend, donc je crois qu'il ne faut pas l'exclure de la Commission des affaires étrangères. Il faut seulement l'engueuler un petit peu que ce qu'elle dit n'est pas acceptable, mais il ne faut pas l'exclure. Et elle va apprendre. Elle va apprendre. Elle est jeune.
Une représentante comme Ocasio-Cortez, la jeune représentante aussi de New York, estime que ses propos, ils auraient été tenus par quelqu'un d'autre, peut-être n'auraient pas eu autant d'impact. C'est votre avis ou...
Non, je crois que ce qu'elle a dit, c'est ça qui compte. Le fait qu'elle est musulmane ne change pas grand-chose, à mon avis.
C'est une brèche, peut-être, pour les républicains d'attaquer les démocrates.
Oui, ils vont essayer, mais je crois que ce n'est pas un sujet aussi important, par exemple, que le déficit budgétaire, les impôts, les questions d'immigration. Ce sont des sujets beaucoup plus importants que ça. Ce sera un sujet pour une semaine et ça va disparaître.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.